Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Nicolas Corato. Bonjour Nicolas, président fondateur
bonjour
du
Valérie.
Think Tank Place de la République. Nelly Garnier, bonjour, vous êtes conseillère de Paris et porte-parole du groupe Changer Paris. Dominique de Montvalon, journaliste politique, bonjour.
Bonjour.
Et Patrick Vignal, député LREM de l'Hérault.
Bonjour,
bonjour à vous. Faut-il fermer les écoles pour 4 semaines? C'est ce que demandent les médecins scolaires. On va revenir sur la déclaration de François Bayrou. Est-ce qu'on est dans la classe moyenne et est-ce quand on gagne 4000 euros par mois, il souhaite augmenter les impôts des plus riches? Et puis, je voulais vous faire réagir également sur les aides sociales pour les familles de délinquants qui ont été supprimées par le maire Carl Olive à Poissy. Et puis bien d'autres sujets, évidemment, grâce à vos coups de cœur et coups de gueule, ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Dominique, effectivement, on sort de France avec vous.
Oui, j'ai hésité, je propose, mais ouais. Finalement, je propose un coup de gueule contre le porte-parole du gouvernement algérien. Je précise que, sauf erreur de ma part, pour ne parler que de lui, le président algérien est aujourd'hui hospitalisé à l'étranger. Mais le porte-parole en titre du gouvernement algérien est intervenu pour, en substance, je n'ai pas les mots exacts, mais c'est ça, demander à la France de présenter des excuses et de la repentance par rapport aux crimes qui ont été commis et qu'elle aurait commis comme pendant la période coloniale. Alors, deux choses. Je ne suis pas dupe, on a déjà vu ça plusieurs fois. Nous sommes otages des manœuvres internes du gouvernement algérien, des manœuvres électorales et politiques du gouvernement algérien. Il y a les uns poussent dans un sens, dans un autre, etc. Tout ça est assez médiocre et en même temps très connu. Mais d'un autre côté, c'est un sujet notamment qui est à l'ordre du jour, là, comment dirais-je, au fond, confronter la vision de notre histoire commune entre des deux côtés de la Méditerranée, entre la France et l'Algérie. Et ce genre de déclaration, c'est rajouter sur des braises chaudes de l'huile bouillante. Donc ça mérite modestement de ma part, mais fermement, un grand coup de gueule. J'ai envie que des gens responsables en Algérie s'expriment sur ce sujet et non pas des irresponsables.
C'est effectivement, on sort effectivement d'un sujet qui est assez rarement traité en plus en France. Nicolas Corato, c'est un coup de gueule pour vous ce matin?
Oui, je voulais parler du feuilleton Veolia-Suez qui agite les milieux économiques et financiers et politiques depuis quelques mois et qui, je trouve, ne trouve pas leur place dans le débat public, dans le débat médiatique, parce que
compliqué.
Il s'agit ni... Oui, c'est une affaire très compliquée, comme tout ce qui est un peu financier, boursier, économique, mais c'est une affaire très simple quand on la ramène à notre niveau de citoyen, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de l'activité de l'eau et des déchets dans la génération qui viendra. Moi, je suis un peu étonné en ce moment que le monde d'après ou le monde d'avant continue leur même marche et qu'alors qu'on a des vrais débats sur les moyens de production, sur l'autonomie, sur la souveraineté économique de notre pays, de notre continent, on continue avec le projet Hercule pour EDF ou avec cette OPA sur Veolia et Suez à traiter de biens communs, parce que l'eau c'est un bien commun, d'une manière purement financière. Alors, j'ai vu Bruno Le Maire qui s'agitait, mais en vain, c'est-à-dire que il faut rappeler qu'à l'origine de cette OPA, il y a quand même le fait que Engie, dont l'État détient plus de 26% des actions du capital, Engie a cédé sa participation à Suez, à Veolia, malgré l'opposition de l'État, malgré l'opposition des administrateurs qui nous représentent au conseil d'administration d'Engie. C'est un camouflet pour le pouvoir politique, c'est un camouflet contre lequel il ne peut rien juridiquement ou légalement, sauf que l'exécutif a aussi une impulsion législative à donner, et qu'il ne la donne pas. Et moi, je pense que le sujet se pose aujourd'hui de savoir si demain, on donnera des leviers d'action plus clairs au pouvoir politique pour s'opposer ou pour en tout cas guider le genre d'OPA ou d'action hostile que nous rencontrons aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer en fait dans ce projet? C'est que si le projet va à terme et si effectivement Veolia rachète Suez, il est dans les projets que l'activité eau de Suez en France soit léguée pour des questions de concurrence européenne à un fonds d'investissement. L'eau en France, ça marche en terme de délégation de service public, c'est-à-dire que c'est votre argent, l'argent de l'État, l'argent des contribuables, l'argent des usagers qui financent ce système d'assainissement des eaux. Moi, je trouve absolument incroyable qu'alors que la thématique écologique est au centre du débat, qu'on sait que la question de l'eau potable sera une question dans les 20 ans qui viennent en France pour les générations futures, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, on n'est pas un débat public plus large et une action politique plus forte sur ce sujet. J'ajoute que le président de la République a prévu un référendum sur l'environnement en septembre. Moi, j'aurais aimé ou j'aimerais que dans ce référendum, il y ait des propositions pour que l'État contrôle beaucoup plus l'activité des acteurs économiques qui touchent les biens communs.
Oui, Dominique, vous vouliez...
Je voulais juste vous poser une question, vaste sujet et sujet effectivement capital, mais vous, personnellement, d'une phrase, si j'ose dire, c'est un peu prétentieux de ma part, qu'est-ce que vous suggérez face à cet affrontement capitalistique haut de gamme et un peu fratricide que vous venez de décrire? Vous l'avez décrit, mais qu'est-ce que vous suggérez?
Non, mais il y a plusieurs sujets. Moi, ce que je suggère d'abord, c'est que ce gouvernement, par exemple, qui a voté la loi Pacte, aurait pu envisager des moyens de blocage beaucoup plus évidents aux mains de Bercy pour empêcher ou pour intervenir de manière plus régulatrice dans ces rapprochements. Voilà, aujourd'hui, on fait le constat que la logique de financiarisation à tout craint de l'économie qui a été portée par les gouvernements successifs depuis une quinzaine d'années, nous revient en boumerang et empêche l'État d'intervenir. Moi, je pense qu'il faut se reposer la question du rôle de l'État, du rôle de régulateur de l'État dans ce sujet-là, et que je pense que c'est un sujet que le président de la République pourrait porter dans son référendum
Absolument.
En septembre.
Oui, vous êtes d'accord, Patrick ?
Écoutez, moi j'ai reçu, cher monsieur, les syndicats de Suez. Effectivement, on doit laisser une libre concurrence. Et aujourd'hui, effectivement, cette fusion en fera un monopole. Et vous avez raison, l'eau est le bien commun pour nos générations futures.
Ouais. Nelly Carnier, un mot sur cette EPA, effectivement, et sur les limites du gouvernement ?
Ah, écoutez, oui, comme vous l'avez dit, c'est une affaire complexe qui a mobilisé beaucoup les élus locaux, hein, parce que c'est les élus locaux, effectivement, qui sont beaucoup concernés sur cette question de gestion de l'eau. Après, on a aussi besoin d'avoir des grands champions français. Oui. Et donc, ce qui peut justifier des rapprochements. Et donc,
Absolument.
C'est un peu ce qui s'est posé.
Alors, Patrick Vignal, vous, c'est un coup de cœur?
Oui, écoutez, moi j'ai un coup de cœur de solidarité. Alizé Boyer, 30 ans, une infirmière qui travaille à l'Institut Saint-Pierre à Palavas, qui découvre début 2019 une boule sous le sein gauche, donc radiothérapie, chimiothérapie. Elle n'est pas retenue dans un protocole aujourd'hui. Elle doit aller en Allemagne pour suivre un protocole de trévirol. Ça coûte 100 000 euros. 100 000 euros. Elle ouvre une cagnotte avec le club Viva Finesse à Lunel, un club de forme qui est fermé aujourd'hui en difficulté. Et aujourd'hui, une cagnotte pour elle, donc j'ai vraiment une pensée pour elle. Vous savez, en ce moment difficile, la France est un peu compliquée. Les gens sont peut-être moins solidaires, mais là, je voudrais féliciter les gens qui l'encouragent de cagnotte. Et je voudrais dire à Alizé qu'elle a envie de soigner, continue à vivre, à se marier, et on l'aime très fort.
Et pourquoi elle est obligée d'aller en Allemagne? Parce que le traitement n'existe pas en France?
Elle était retenue sur un protocole. Ouais. Il se trouve qu'il n'y a pas assez de médicaments et qu'elle était exclue du protocole.
D'accord.
C'est quand même compliqué, quand même, le sixième
nation. Donc elle doit payer elle-même 100 000 euros pour être soignée.
Elle-même 100 000 euros pour pouvoir vivre.
Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. Il y aura votre coup de gueule, Nelly. Je voulais en faire un sujet, d'ailleurs, à propos au sujet de... C'est pas non plus... Voilà, je me suis emmêlé les pinceaux. C'est en réaction à Didier Le Maire, ce prof de philo. On va y revenir. Et la réaction du maire de Trappes qui vous a interpellé. Et je dois dire, moi aussi. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Débat.
On est ensemble sur Sud Radio avec Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, Nelly Garnier, conseillère de Paris, porte-parole du groupe Changer Paris, Dominique de Montvalon, journaliste politique, et Patrick Vignal, député LREM de l'Hérault. Je vais vous donner la parole dans un instant, Nelly Garnier, parce que je voulais qu'on traite ce sujet, donc vous allez l'introduire. Moi, j'avais deux coups de gueule. Le premier, c'est Younis Abbas, donc cet homme qui a écrit « J'ai séquestré Kim Kardashian », qui fait la tournée des plateaux télé. Certes, c'est un pied nickelé. C'est ce qu'il raconte.
Non, il
raconte
indécent.
Pardon ? C'est indécent, on est d'accord. Donc,
D'accord avec vous.
Oui, oui. Et donc, dans le livre, effectivement, le titre est extrêmement racoleur, puisqu'il a pas séquestré, il ne l'a même pas vu, puisque lui était dans le hall. Mais ce type fait la tournée des plateaux télé. Il faut penser, il y a une avocate qui a tweeté, justement, à destination des gens qui l'invitent. Mon client ne vous intéressera pas. C'était le gardien de nuit qui était là ce jour-là. Un jeune étudiant étranger qui est traumatisé. Et voilà, on traite ça sur le mode du sensationnalisme. Et moi, j'ai été extrêmement choquée par ce livre. Les éditions, on peut les citer, j'ai un trou de mémoire, de l'Archipel qui publie ce livre. Je trouve ça
d'ordinaire,
assez scandaleux.
Mieux inspiré.
Comment voulez-vous qu'on éduque notre jeune génération avec des têtes de gondole pareilles, franchement? On marche sur la tête en France.
Vous en pensez quoi, Nelly?
Moi, je suis assez d'accord. C'est vrai que déjà, on a une explosion des cambriolages. Hein, c'est quand même quelque chose qui est assez courant. Il faut quand même rappeler que pendant le confinement, il y a aussi beaucoup de pharmacies, par exemple, qui ont été cambriolées. Et que c'est une agression, le cambriolage, et c'est une agression qui est particulièrement traumatisante parce que souvent on pénètre dans votre intimité. Oui. Et les gens, souvent, c'est une agression qui a des séquelles sur le long terme. Et puis, souvent, les gens se font voler des objets qui ont une forte valeur sentimentale. Et donc, je trouve que, on surfe un peu sur la vague du Lupin, mais que, en réalité, j'aurais pu comprendre que ce cambrioleur, il témoigne pour dire ses regrets ou autre chose, mais là, qu'on en fasse un exploit, je trouve que c'est très choquant, effectivement.
Oui, il dit, je lui demande de me pardonner, c'est ce qu'il a dit hier chez Cyril Hanouna, mais au-delà du cambriolage, elle a quand même été séquestrée, elle a été bâillonnée, attachée, c'est pas un petit cambriolage non plus. Je voulais vous entendre, Nicolas, aussi, sur le sujet.
C'est la société du spectacle, c'est-à-dire qu'on donne la parole à des gens qui n'ont malheureusement rien à dire ou rien à dire de profond, uniquement pour faire marcher la machine médiatique. C'est extrêmement regrettable et je rejoins monsieur le député. Moi, je trouve que, encore une fois, mais vous savez que c'est mon grand credo. Moi, je suis très interventionniste, pardon, mais voilà, que nos enfants biberonnent Cyril Hanouna pendant les confinements et les couvre-feux, c'est quand même un problème majeur de santé publique.
Il n'y a pas que lui, hein.
Il y a un moment où il faut le dire aussi, c'est-à-dire que ces gens ont aussi la responsabilité d'animer le débat public et honnêtement, animer le débat public avec des intervenants comme ça, c'est en dessous de tout et c'est en dessous de la responsabilité qu'on se doit quand on est un animateur télé à une heure de grande écoute. Voilà.
Moi, je suis très inquiet de la suite. Les réseaux sociaux, les fakes, les émissions des Marseillais, enfin, des jeunes enfermés, franchement, avec pour option, vraiment, il n'y a pas de débat d'idées, en fait. On est en train d'avoir cette société de consumérisme, d'immédiateté, on doit tout savoir. Enfin, franchement, moi, je suis inquiet, après la Covid, de quelle société on va laisser à nos jeunes où il n'y a plus d'esprit critique. L'esprit critique est sur les réseaux sociaux et on fait plus confiance aux réseaux sociaux qu'au vrai débat d'idées. Et moi, je suis inquiet pour l'avenir.
Oui. Mon deuxième coup de gueule, ça va sûrement vous faire réagir, c'est une médecin qui m'a raconté ça hier. Elle est allée à l'Hôtel Dieu pour se faire vacciner, pour recevoir sa seconde dose. C'est une femme qui a une consultation avec des patients, donc plus de 65 ans. C'était normal qu'elle soit vaccinée. Elle a fait la queue pendant une heure devant l'Hôtel Dieu, plus d'une heure pour être vaccinée, parce qu'il y a beaucoup de soignants qui étaient là et qui attendaient. Et quand elle est arrivée, on lui a dit « Ah ben non, ça a été reculé. En fait, c'est plus 21 jours, c'est 28 jours. » Donc, personne ne l'a prévenue. Donc, au-delà des consultations annulées, je trouve ça assez scandaleux dans la gestion. Mais le pire dans ce qu'elle m'a raconté, c'est la personne qui sortait de l'Hôtel Dieu pour dire « Est-ce qu'il y a encore des gens de la mairie de Paris ?» Et ces gens-là sortaient de la queue et allaient et passaient devant tout le monde. Donc, c'est vrai que ça a été soulevé, le fait qu'il y ait des gens de la mairie de Paris qui aient été vaccinés, on ne sait pas qui, ni comment. Anne Hidalgo a dit qu'elle allait enquêter. Moi, je pose la question. C'est du vécu, c'est un témoignage direct. Nelly Garnier, vous avez eu vent de ce type d'action ?
Oui, bien sûr, on avait demandé des éléments de transparence parce que, comme vous le dites, hein, c'est extrêmement choquant parce qu'on voit, puis même on voit des personnes qui sont très fragiles, qui attendent leur première dose ou leur deuxième dose, qui ont eu des délais très, très longs. Hein, c'est ce qu'on constate dans les mairies d'arrondissement. Donc, l'idée qu'il puisse y avoir eu des passe-droits pour des personnels de la ville de Paris, voilà, ça avait créé beaucoup d'émoi. Alors, ça avait été signalé par les syndicats de la PHP, effectivement, absolument. Que sur ce type de témoignage, que vous révélez, Et la maire de Paris a tout de suite crié à la diffamation en disant que elle allait faire toute la transparence sur cela. Ben, on attend toujours la transparence.
Oui, on l'attend toujours.
Oui, on attend de savoir, parce qu'il y a peut-être des gens effectivement de la mairie qui ont besoin d'être vaccinés, qui sont au contact avec le public. Mais là, visiblement, en plus, ils passaient devant les gens. Donc, c'est quand même assez choquant. Donc,
Ces gens ont un nom, ils ne s'appellent pas la ville de Paris.
Bah si, c'était, y a-t-il des gens de la ville de Paris.
Voilà.
Mais si vous voulez, ce qui est compliqué, c'est que quand on est dans des situations de pénurie, comme on a eu depuis le début de cette crise, on a été en pénurie sur les masques, sur les tests, sur les vaccins, tout ce qui donne le sentiment qu'il y a des passe-droits ou du favoritisme ne fait qu'accentuer la colère des gens.
Et donc, la défiance.
Il faut, et la défiance, et donc il faut une très grande exemplarité. Et j'ai envie de dire, même au-delà du fait d'avoir une ordonnance, comme vous le dites, le fait de faire passer en priorité sur des fils, ça crée aussi de la défiance, ce type de témoignages, qui sont des témoignages vécus. Donc les gens ont raison de le dire, et donc il faut une très grande transparence et une très grande exemplarité.
Il y aurait eu, selon certaines sources, 1500 personnes de la mairie de Paris vaccinées, mais je dis au conditionnel, mais on attend effectivement la transparence et qu'on nous explique qui et pourquoi. Donc Nelly Garnier, votre coup de gueule, et je voulais qu'on revienne sur ce sujet qu'on a évoqué, concerne le maire de Trappes, Ali Rabet, qui, je le précise, a été invalidé, son élection a été invalidée. Il est en attente, pour l'instant il reste en poste, mais il doit y avoir une nouvelle élection à Trappes.
Oui, alors on a eu cette polémique avec d'un côté ce professeur de philosophie qui est menacé de mort pour avoir défendu Samuel Paty, puis de l'autre ce maire de Trappes qui l'a accusé de mentir sur sa ville, notamment sur le fait que certains commerces n'étaient pas ouverts aux femmes. Bien évidemment, comme beaucoup de Français, ça m'a rappelé ce livre que j'avais lu de Raphaël Baquet et d'Ariane Chemin, La communauté, absolument. Et qui était une plongée dans l'histoire de Trappes.
Oui, on vous a perdu. On vous a perdu, pourtant on vous entend. Non, on vous a perdu. Donc effectivement, hier, on va essayer de vous retrouver. Hier, donc l'enseignant a fait un petit peu le tour des plateaux pour raconter son histoire, qu'il était menacé de mort. Il défend la laïcité et il a prononcé un certain nombre d'affirmations, effectivement, selon lesquelles il n'y avait pas de coiffeur mixte à Trappes, qu'il n'y avait pas que les juifs, les portugais, que les gens quittaient et les musulmans modérés quittait également la ville. Alors le maire, en réponse à ça, hier, a dit qu'il allait porter plainte en diffamation. Est-ce que c'était la réponse apportée ? Je ne sais pas si on a retrouvé Nelly Garnier. Non, on ne l'a pas retrouvé. Non. Dominique, oui, vous vouliez réagir aussi, évidemment, sur ce sujet ?
Oui, quand le professeur de philo s'est exprimé, notamment sur plusieurs antennes hier, il l'a fait avec une sincérité une gravité, une densité qui donne du poids à ses propos et qui faisait quelque part, en tant que citoyen, qui me faisait froid dans le dos, comme tous ceux qui l'ont entendu. C'était grave. Et les enjeux derrière valent pour la ville de Trappes et valent au-delà pour, quelque part, d'une certaine façon, inégale, pour l'ensemble de la France. Raison de plus aujourd'hui, mais je ne mets pas du tout en cause son témoignage, mais raison de plus aujourd'hui pour souhaiter que, très vite, c'est probablement, ça commence à être le cas aujourd'hui, des enquêtes journalistiques nombreuses et complémentaires aient lieu, parce qu'on ne peut pas, les conséquences que nous pourrions être amenés à en tirer, et l'effroi qui est déjà le nôtre, après avoir entendu ce prof de philo, ne peut pas reposer uniquement
sur
le témoignage de ce monsieur, le témoignage que je ne mets pas en cause. Donc on attend. J'ajoute juste une dernière chose. Regardez si Mme Garnier n'en est pas. J'ajoute juste une chose. Il a parlé de menaces de mort. Alors restons déjà à ça, parce qu'il y a d'autres problèmes qui se posent derrière. Et des problèmes graves. Attendez, qui a fait ces menaces de mort ? A-t-il déposé plainte ? Des enquêtes ont lieu. On a vu que dans d'autres cas, je pense notamment par exemple à la jeune Mila. Ça ne se fait pas en claquant deux doigts comme ça, mais quand la police et les services de renseignement recherchent les auteurs de menaces de mort, croyez-moi, ils finissent par les trouver. Et c'est une infraction extrêmement grave.
Ouais.
Donc déjà, en dehors des extrapolations fondées, probablement, hélas, mais sur notre façon de vivre ensemble ou d'avoir du mal à vivre ensemble, déjà, ceux qui ont fait ces menaces de mort, ils doivent rendre des comptes.
Oui, alors je précise d'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu dans le bulletin de 11h, que 5 individus ont été interpellés dans le cadre des menaces de mort contre Mila. Il faut du temps, mais effectivement, vous
l'avez
dit.
Oui, alors voilà, c'est ça que j'avais entendu.
Alors Nelly Garnier, on vous a retrouvé.
Oui. Désolée, ces connexions. Non, oui, moi je voulais aussi parler de ce livre, hein, Le maire et les barbares, de la journaliste Eve Jettel. Parce que ce qu'il montre, c'est aussi comment il y a eu des reculs et des compromissions de la part de certains élus locaux. Et il décrit notamment comment certains maires ont pactisé avec le communautarisme à des fins électorales, notamment en Seine-Saint-Denis.
Absolument.
Et c'est vrai qu'il faut dire que ces territoires, c'est des territoires où il y a une abstention énorme. Et donc, on est élu avec peu de voix et que ça, certains élus ont eu des pratiques clientélistes. Ils ont aussi négocié des fausses paix civiles avec des dealers dans certains de ces territoires. Tout cela au détriment des habitants et en créant des systèmes électoraux qui prospéraient aussi sur ce séparatisme. Et finalement, cette histoire, elle n'est pas nouvelle, hein, parce qu'on l'a dit, j'ai cité le livre d'Ariane Chemin, Raphaël Baquet, j'ai cité le livre d'Eve Jettel. Ce sont des phénomènes qu'on connaît. Et maintenant, la question, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, on a eu des politiques de la ville à chaque fois. Ça a été donner des coups de peinture sur des ghettos. Ouais. On a donné des coups de peinture sur des territoires coupés de la République. Et parce que finalement, ces ghettos, tant qu'ils n'étaient pas une menace, ça arrangeait tout le monde de ne pas les voir. Et je pense que maintenant, on voit bien avec ces histoires qui reviennent, celle de Samuel Paty, celle de ce professeur, qu'il faut agir. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on a un texte qui est en examen, qui est le projet de loi séparatisme. Et la question de la ségrégation territoriale et de comment on va casser ces ghettos n'a pas été posée, alors qu'on sait que c'est un des ferments du séparatisme.
Ouais. Allez, on va marquer une pause et on va continuer ce débat. Si vous voulez réagir, 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Nous parlions donc de la réponse du maire de Trappes qui a donc annoncé qu'il voulait porter plainte contre l'enseignant. Je rappelle quand même que cet enseignant qui a été sur de nombreux plateaux n'a été reçu à ma connaissance que sur Sud Radio, à la radio, et c'est une question qu'on peut se poser, de savoir pourquoi d'autres radios ne l'invitent pas. Nicolas Corato.
Oui, d'abord, moi je rejoins tout ce qui a été dit, notamment sur les dérives de gestion communautariste par beaucoup d'élus locaux en France, et qui ne sont pas nouvelles, et qui sont un véritable fléau. Je rejoins également Dominique de Montvallon sur l'idée qu'il faut objectiver tout ça. Moi, j'aime bien savoir d'où on parle et j'aime bien effectivement objectiver les faits. Monsieur Didier Lemaire, si j'en crois le Parisien, mais c'est son droit le plus absolu, mais autant le dire, serait secrétaire général d'un micro-parti qui s'appelle le Parti Républicain Solidariste, qui est très, très engagé dans une certaine version de la laïcité que je ne partage pas, mais que je respecte, parce qu'il faut respecter toutes les opinions. Mais ce serait bien de le dire. C'est-à-dire, c'est une chose de parler en tant qu'enseignant, c'en est une autre de parler en tant que représentant d'un parti. Je ne sais pas si l'information que je vous donne est vérifiée, je l'ai lue dans la presse, comme tout le monde.
Mais
c'est pour ça que, comme le dit Dominique, moi j'aimerais bien qu'on objective aussi un peu qui prend la parole sur ces sujets et à quel titre ils prennent la parole. Et j'entends parfaitement le désarroi, la colère et la peur d'une partie de la communauté enseignante par rapport à ces sujets de la laïcité. C'est un vrai sujet qu'il faut traiter. Moi, je pense qu'il faut le traiter de la manière la moins, là aussi, comme le disait Nelly Garnier, la plus exemplaire et la plus transparente possible. On a besoin de transparence sur ces sujets, y compris de savoir qui nous parle de quoi. Pour revenir sur ce qui se passe à Trappes, c'est pas nouveau. Le livre de Raphaël Baquet était effectivement un livre très intéressant, peut-être un des premiers du genre, mais qui prenait appui aussi sur une génération,
de la République,
la fabrication d'une génération de djihadistes à partir d'une situation communautariste dans une ville. Ce livre ni l'expérience de Didier Lemaire ne peuvent non plus résumer la réalité de la ville de Trappes. Et je pense que là aussi, on connaît assez mal et on documente assez mal ce qui se passe dans ces banlieues. Et moi, je trouve qu'effectivement, plus on étudiera et plus on regardera calmement les choses sur ces territoires qui sont majoritairement oubliés de la République, mais qui se sont peut-être aussi majoritairement enfermés dans la République ou en dehors de la République, plus on progressera dans le débat public. Moi, je pense qu'il faut un peu de calme et surtout de la transparence. Donc moi, là-dessus, je n'incrimine personne, mais j'aimerais aussi que quand on présente les intervenants, on dise tout de leurs engagements pour qu'effectivement on sache qui nous parle et d'où ils nous parlent.
Oui, enfin, il n'a pas caché, pardon Nelly Garnier, allez-y.
Non, mais moi, vous savez, il y a eu un peu la même chose, sauf que les gens se sont plus censurés sur Samuel Paty parce que quand même les circonstances étaient autres. Mais Samuel Paty aussi, les gens ont dit oui, mais quand même, comment il avait pu préparer les choses? Est-ce qu'il avait bien expliqué ce que c'était que les caricatures? Je pense que ça pose. Et puis après, il s'est posé la question de est-ce qu'on est en capacité de présenter les caricatures, par exemple, dans tous les établissements, dans tous les collèges et les lycées de France. Et là, il y a plein de professeurs qui ont dit non. Nous, parce que les professeurs, ils sont aussi démunis. Vous envoyez les professeurs dans ces territoires en leur disant, allez expliquer ce qu'est la laïcité, allez défendre la République. Et puis, ils sont seuls, sans armes, à risquer leur vie et leur peau dans ces conditions. Donc, vous avez aussi une réflexion à mener qui est que comment on s'adresse avec des enfants qui peuvent grandir dans des idéologies. Parce que quand vous êtes professeur, normalement, vous êtes là pour transmettre un savoir. Et là, on leur demande finalement de pallier à tout ce que la République n'a pas su faire pendant des années et qui a notamment été de ghettoiser certains territoires. Et ce n'est pas aux professeurs de porter tout ce poids sur les épaules, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont se faire? Ils vont partir de ces territoires. Et au bout d'un moment, on n'aura plus d'enseignants qui veulent y aller. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est posé.
Oui,
Ce
la
professeur
réponse
a dit, je
qui...
veux...
Oui, allez-y, pardon.
Oui, il a dit, je veux continuer à enseigner à Trappes, mais la question, c'est est-ce qu'on aura encore des professeurs qui n'ont pas peur et qui ont envie de continuer à porter les valeurs de la République tout seuls dans des territoires où ils ne sont même pas soutenus par leurs élus?
Parce que la réponse du rectorat a été hier de lui proposer une mutation
Oui, c'est ça.
qu'il a refusée. Mais une mutation, ça veut dire aussi mettre la poussière sous le tapis, c'est-à-dire... Bon, ça pose problème là. On va mettre un autre prof qui sera peut-être un petit peu plus docile, entre guillemets, encore que ce soit pas le bon mot, Patrick.
Vous savez, moi, je découvre pas les banlieues. Ça fait longtemps qu'il y a de la lâcheté politique, et je pèse mes mots. Des élus de tous bords ont profité de ces quartiers qui ont été oubliés, des territoires complètement abandonnés. Vous savez, cette idée de ghetto de riches et de ghetto de pauvres. Le vrai débat, en fait, c'est comment on fait la mixité sociale? Comment on fait la cohésion? Et c'est vrai que la politique de la ville, à mon sens, n'a pas tout donné comme résultat. Et je vais vous prendre un exemple. Souvent, dans ces territoires, on y construit l'école, la salle de gym, le club de foot, le lycée. Ça veut dire qu'en fait, on enferme les gens. Et la réflexion qu'on devrait avoir, c'est ouvrir ces territoires. Ce que font un petit peu aux États-Unis du busing, parce que moi, je vois l'exemple, par exemple, sur les villes de ma circo, il y a des territoires à Montpellier qui sont très compliqués à récupérer. Et en plus, on envoie des enseignants ou des jeunes policiers qui sortent de l'école, qui ne sont pas formés. Rappelez-vous, il y a quelques années, l'instituteur qui est élu SAR de la République vivait sur le territoire, le policier aussi. Donc on a eu de la lâcheté politique pour des raisons électoralistes. Et aujourd'hui, ce n'est pas, vous le disiez, madame, ce n'est pas quand on fait un grand projet en rue, on tombe des bâtiments, on fait des nouveaux bâtiments, mais on n'a pas changé l'état d'esprit de la République. Et donc, je pense que ça va être long. Il y a une réponse ferme policière, mais en fait, il y a un triptyque éducation qui comprend l'enseignement, la culture, prévention et aussi répression. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que ces territoires sont gangrénés par une petite somme d'individus qui veulent abattre la République. Et donc, on a un vrai débat politique de fond où la classe politique devrait être apaisée sur ce débat-là. C'est-à-dire à la fois ouvrir les territoires. Et puis, un dernier point. En 2005, quand il y a eu le feu dans les banlieues, à Montpellier, ceux qui m'ont aidé à arrêter le feu, c'était les femmes. On ne fait pas assez confiance dans les quartiers aux femmes, parce que les femmes sont plus courageuses que les hommes. Elles ont envie de protéger leur fratrie. Et je pense qu'on a un vrai débat sur de l'éducation et de la culture. Un dernier point, j'ai jamais vu, moi, l'ENA ou Subdeco dans un quartier populaire. Mettons de la richesse, du théâtre. Faisons en sorte que
On n'en
dans
est
ces
plus
quartiers
là, hein.
populaires, on y soit comme ça. Mais il
Je suis pas
faut,
sûre qu'on en
Valérie,
soit là, hein.
il faut les reconquérir, ces territoires. Sinon, ils seront oubliés. Et puis, quand même, on parle de logements sociaux. Mais désolé, mais les élus des territoires, ils ne veulent pas accueillir les logements sociaux. Sinon, ils perdent les élections. Donc, vous voyez qu'il y a un courage aussi à rénover auprès de l'élite politique.
Oui, vaste, vaste projet, mais c'est vrai que voilà, et c'est vrai qu'on attend de savoir. Si ce qu'il a dit est vrai, en tout cas en ce qui concerne la ville de Trappes,
il y a sûrement du vrai.
Il y a sûrement du vrai.
Qu'est-ce qu'en pensent les
vous
autres
savez,
autour de lui?
Non, mais attendez, il y a sûrement quand vous dites que il y a des commerces qui sont pas accessibles aux femmes, ou qu'il y a des ghettos où prospère une idéologie du fondamentalisme islamiste, je veux dire, vous n'avez pas doute sur le fait que c'est vrai. Je vais vous dire, des territoires perdus de la République, vous en avez aussi dans le cœur de Paris. Moi, je peux vous citer des rues dans certains arrondissements périphériques de Paris où les femmes doivent changer de trottoir. Enfin, je veux dire, c'est une réalité. Je pense que c'est de l'aveuglement. Alors, bon, c'est très bien de dire, je pense que ça ne peut pas être totalement apaisé tant que vous avez une partie de la classe politique qui est aveuglée, parce que d'un autre côté, vous êtes obligé de lancer des cris d'alerte pour dire ouvrez les yeux. Et quant à la question du logement social et de ces ghettos, c'est pas qu'une question d'ouverture, c'est pas qu'une question de les connecter, c'est qu'il faut casser les ghettos, il faut refaire de la politique de mixité sociale. Et ça veut dire aussi peut-être revoir le DALO, revoir tout ce qui a été notre politique de logement social, qui a été d'accumuler toutes les pauvretés, tous les problèmes au même endroit.
Oui. Alors on a une auditrice qui souhaitait réagir, j'ai pas noté son nom, Catherine. Catherine, bonjour.
Oui, bonjour Valérie, bonjour, Catherine. Bonjour tout le monde. Voilà, alors c'était pour apporter un témoignage. Bon, déjà, il n'y a pas qu'à Paris. Il y en a partout en France. Et ça date de bien longtemps, puisque maintenant, j'ai 52 ans. J'ai vécu dans une cité, j'ai vu l'évolution. Et effectivement, tout a été, au fur et à mesure, déjà, rien que le voile, quand on parlait du voile, tout le monde se l'est collé, parce qu'avant, personne ne portait le voile. Et au fur et à mesure, dans mon quartier, à force de bousiller les vitrines des personnes qui étaient en centre commercial, toutes les nuits, et à force, les gens n'en pouvaient plus, donc ils ont tous lâché leurs vitrines, ils ont tous été rachetés. Et devinez par qui. Donc, on n'avait plus le droit. On ne pouvait plus acheter du pain normal. C'était du pain, voilà. Tout a été racheté à l'al. C'était plus du tout notre quartier d'enfance. Maintenant, j'avoue que personne n'a jamais rien fait. Jamais rien. Nous, on est de cité, on est des personnes pauvres, tout le monde est agglutiné avec des maghrébins, tout ça. Ça marche pas tout le temps. Il y a des gens qui ont des bonnes expériences. Moi, j'ai une très mauvaise expérience, beaucoup de violence, des coups de couteau. Mon père était concierge, mais personne n'a jamais rien fait. On a laissé tout faire. Donc maintenant, se plaindre maintenant alors qu'il fallait le faire bien avant, moi ça ne m'étonne pas. Quand j'entends ce monsieur, le professeur dire ça, mais je le trouve tout à fait légitime.
Courageux.
Parce que maintenant ça fait peur. Ma mère a encore peur des représailles quand on lui pique quelque chose dans son jardin.
Vous êtes dans quelle région, sud, nord?
Alors, ma mère est d'Angers.
Ouais, d'accord.
Voilà, moi je suis dans le Var. J'avoue que j'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis barrée vite fait de chez ma mère parce qu'on n'en pouvait plus. Voilà.
Est-ce que vous décrivez.
Et maintenant il y a des ventes d'armes, parce que tout ça, ça s'amplifie. Les gens ne veulent pas partager avec les autres. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas. C'est pas une question de généralité. Je veux pas généraliser. Il y a des gens très bien. Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Ils restent dans leur communauté parce qu'ils sont bien entre eux. Mais par contre, ils l'imposent.
Non, mais merci de votre témoignage, Catherine, qui confirme effectivement une certaine réalité. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio. On va parler des écoles, de la contamination. Est-ce qu'il faut les fermer pendant 4 semaines, comme le réclament un certain nombre de médecins? On en parle avec vous. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Une précision, évidemment, ce professeur a été invité sur d'autres radios par la suite, mais c'est vrai qu'hier matin, nous étions les premiers à l'avoir. Faut-il fermer les écoles pendant 4 semaines? Beaucoup de questions autour de la contamination dans les écoles. Le syndicat majoritaire des médecins de l'éducation nationale a demandé hier, dans un communiqué au ministre de l'Éducation, la fermeture de tous les établissements scolaires à partir du 8 février pour la durée des vacances de février des 3 zones géographiques. Il y a un nouveau protocole, vous le savez, qui est entré en vigueur dans les établissements scolaires et les crèches, exigeant notamment les masques de catégorie 1 pour le personnel et pour les enfants. Une distanciation de 2 mètres à la cantine. Alors voilà, ce sont des annonces. Est-ce que dans les faits, c'est applicable ou pas? Lorsqu'un enfant sera un cas contact ou qu'il aura eu de la fièvre, quand il sera cas contact et contaminé par l'un des variants, la classe devra fermer. J'entendais ce matin le témoignage d'un enseignant qui disait que dans son école, il y avait 3 classes ouvertes sur 18. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre comment ce protocole est tenable et comment on en est là encore aujourd'hui. Peut-être Nelly Garnier, vous avez, vous, des informations sur la manière dont les choses se mettent en place dans les établissements ?
Écoutez, je pense que les enseignants font leur possible et comme on le sait, avec des enfants petits ou même les structures d'établissement font que ce n'est pas toujours simple de tenir les mesures barrières comme on le fera avec des adultes. Mais moi, vous le savez, j'ai toujours dit que la fermeture des écoles, ça doit être le dernier recours parce qu'on a vu sur le premier confinement les dégâts qu'ont fait la déscolarisation des enfants pendant près de 6 mois. Et on sait que on voit bien que, à la faveur de cette crise, toutes les inégalités nous apparaissent de manière plus flagrante, toutes les fractures se creusent. Et je crois que vraiment, l'école, c'est un des lieux où l'inégalité, où le confinement a fait vraiment exploser les inégalités avec des enfants qu'on a eu d'ailleurs, qu'on a perdu dans la nature. En Seine-Saint-Denis, on l'a dit, il y avait 3000, 4000 enfants à la fin du confinement que les professeurs, que les écoles n'avaient pas récupérés. Et donc, on a, je crois qu'il y a une préoccupation majeure de l'ensemble de la société française et une forme de consensus sur le fait que la fermeture des écoles doit être le dernier recours. Et je crois que, on en est là aujourd'hui. Après, moi, je suis comme tous les Français. On est là, on n'est pas médecin. On est en train de regarder les chiffres de Covid tracker. On entend des choses dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Je crois que maintenant qu'on a compris qu'on allait vivre avec cette épidémie peut-être pendant des mois, voire plusieurs années, il faut qu'on rentre dans un monde avec, où on arrive à préserver ce qui est essentiel, c'est-à-dire un minimum d'activité économique, c'est-à-dire la scolarité de nos enfants, c'est-à-dire que nos étudiants ne soient pas une génération sacrifiée et qu'on maintienne la vie en limitant la propagation de la maladie. Et c'est comme ça qu'on doit envisager le nouveau protocole dans les écoles.
Oui.
Moi, je suis quand même ravi que le pouvoir politique reprenne la main, parce que j'entends tous les jours un médecin, un diagnostic différent. J'ai écouté donc cette dame syndicaliste médecin scolaire qui expliquait qu'il faut vite fermer les écoles. Mais on se rend compte, et vous l'avez dit, madame, les gens qui veulent travailler, qui ont les gamins en grande difficulté, enfin, quand même, l'école, c'est la formation de nos enfants de demain. Donc, on ne peut pas arriver sur un plateau et dire « je veux qu'on ferme les écoles ». On a un vrai débat, en fait. D'abord, je pense que cette crise, il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité et de transparence. Personne n'a les bonnes solutions. Mmh. On essaie de trouver les moins mauvaises solutions. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, l'école est le dernier lieu à fermer. Et je pense qu'effectivement, il faudra plus que vivre avec ce virus. Il va falloir s'adapter. Sinon, on va devenir fou. Après la crise sanitaire, il y a une crise psychologique. Sur Montpellier, il y a une étudiante qui s'est suicidée. Donc, il va falloir qu'on jongle, si vous voulez, avec l'économie, la crise sanitaire et la crise psychologique. C'est cela, l'intérêt aussi d'avoir des réflexions. Donc, les gens qui vous expliquent qu'il faut fermer des lieux, je pense qu'ils se trompent. J'ai pensé au maire de Perpignan, vous avez vu, qui dit « j'ouvre mon musée ». Mais à ce moment-là, donnons au maire. Moi, le maire de ma ville, j'aimerais qu'il ouvre ma salle de sport. Il faut qu'on soit responsable. Et c'est vrai que je le dis d'ailleurs à ma majorité, qu'on ait un peu de recul, de la transparence. Quand on s'est trompé, qu'on le dise, parce qu'on n'a pas tout fait de bien, et qu'on essaie de faire participer les Français, parce que c'est compliqué ce qu'on vit. Et je vais vous dire, je suis plus encore anxieux de l'après-Covid. Comment on va gérer l'après-Covid? Comment on va gérer les 10 millions de pauvres qui ont moins de 1 000 euros? Comment on va gérer l'artisan boulanger qui dépose le bilan? Tous les jours, j'ai des mails de gens qui me disent « j'ai mis ma maison en caution, je ne pourrai pas redémarrer mon entreprise ». C'est pour ça que la politique, ça demande beaucoup d'humilité et surtout pas d'arrogance.
Oui, mais une fois qu'on a dit ça, on est aussi dans une espèce d'incertitude, Nicolas Corato.
Oui, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Denis Garnier. Le plus difficile dans ces temps de crise, c'est de trouver des consensus. Quand on en a, il faut s'appuyer dessus et ne pas les lâcher. C'est-à-dire qu'il y a un consensus aujourd'hui dans le pays pour dire qu'il faut que les écoles restent ouvertes. Et ce consensus n'est pas un consensus scientifique, c'est un consensus citoyen. Pour plein de raisons, notamment peut-être la première, c'est que, et j'espère que monsieur le député, vous arriverez à en convaincre votre ministre, mais pour la suite, pour l'après-Covid, l'école à distance, la Startup Nation appliquée à l'école, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas en temps d'épidémie, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas en temps normal. Il y a des mirages dont nous sommes revenus avec cette crise et pour éduquer des enfants, il faut du social, il faut une présence sociale, il faut que les enfants soient en groupe, et il faut qu'ils aient un contact direct avec leurs enseignants. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on aura tous retenu. Donc, tant que l'épidémie n'est pas maîtrisée, puisque personne ne la maîtrise, mais tant qu'on peut continuer à ouvrir les écoles, il faut les ouvrir, on gagne des mois, voire des années de rattrapage de l'éducation de nos enfants dans ce pays, et notamment des enfants des classes les plus touchées, les plus pauvres, les plus affectées par la crise, parce que il ne faut pas oublier que derrière les élèves, il y a des parents, et qu'il ne faudrait pas qu'à un moment les écoles soient fermées dans les quartiers les plus populaires, les quartiers les plus populaires où les enfants sont, où les parents sont eux-mêmes à la maison parce qu'ils n'ont plus de travail. Bref, qu'on ait une sorte d'avalanche sociale qui se cristallise autour de l'école et de la situation des parents et des enfants. Ouais. Donc, moi, c'est vraiment un point très important. Appuyons-nous sur les consensus quand on en a. Et je pense que les médecins devraient retourner, non pas à leurs affaires, mais devraient cesser d'inonder les plateaux, ouais, et travailler entre eux et avoir leurs débats et leurs polémiques scientifiques entre eux comme ils l'ont toujours fait. Et puis ensuite, quand ils ont un consensus, comme nous avons un consensus citoyen, nous en faire part.
Oui, Dominique.
Je pense qu'il faut écouter, bien entendu, d'ailleurs personne n'a dit le contraire, les médecins, mais que voulez-vous ? Moi, quand l'autre jour, il y a quelques jours, le président de la République a pris le contre-pied du consensus apparent de tous les grands professeurs pour dire « il faut confiner, il faut confiner », relayé par quelques médias, « il faut confiner », j'ai été soulagé. J'ai été soulagé parce que j'ai estimé qu'en responsabilité, j'ai pensé plutôt qu'en responsabilité, il considérait que les conditions étaient réunies pour qu'on ne se reconfine pas, et ça me soulageait. Et j'ai été soulagé, je peux dire, pas politiquement, mais psychologiquement, parce qu'il était temps. Il faut écouter les médecins, il faut écouter les grands professeurs, etc. Mais il était temps qu'on sorte, non pas d'une dictature sanitaire, mais qu'on sorte de ce discours unilatéralement sanitaire, alors qu'il y a d'autres considérants à prendre en compte. Et là, je m'arrête là. Ce qu'a dit, ce que nous avons, vous avez commenté, Nelly Garnier, sur les enfants, sur l'école, j'y adhère complètement. Je suis gêné parce que depuis, j'ajoute juste ceci, je suis gêné parce que, j'espère me tromper, mais j'ai une curieuse impression, depuis que Emmanuel Macron, pour l'appeler par son nom, a dit que non, on ne va pas confiner tout de suite, et même maintenant, Olivier Véran nous dit aujourd'hui peut-être qu'on ne reconfinera jamais.
C'est ce qu'il a dit ce matin.
Je le souhaite vivement, et j'espère que les variants de toutes origines nous aideront à cette... ça ne veut pas dire qu'on en aura fini avec l'épidémie, mais à cette situation qui nous soulage.
Il prend des risques, soulage...
Olivier
Véran.
Qu'ils prennent des risques. Oui. Et que les politiques sachent prendre des risques. Mais je pense que... ce que je voulais dire simplement, je termine là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de médecins, voire de grands professeurs, je ne les mets pas tous d'ailleurs, peut-être je me trompe d'abord, mais si je ne me trompe pas, je ne les mets pas tous dans le même panier, si je puis dire, mais ils sont un peu revanchards depuis quelques jours vis-à-vis de la décision du chef de l'État.
Qui est revanchard ?
Un certain nombre de médecins et de grands professeurs, pas tous, hein, j'insiste là-dessus, mais... on ne les a pas écoutés, on ne ferait pas du conseil scientifique l'alpha et l'oméga de la politique à suivre dans les mois qui viennent. Enfin bref, j'ai une impression bizarre. Alors voilà, maintenant que la médecin que vous évoquiez tout à l'heure dit aussi il faudrait reconfiner à l'école, il faudrait arrêter. Bon, on se calme, mais il faut les écouter, les médecins.
Soit on les écoute pas.
Oui, mais attendez, on marche un peu sur la tête quand même.
Ils se contredisent entre eux.
Qui doit se réunir, mais franchement, j'ai signé une tribune début janvier. Son nom, la charge contre le virus. 40% des Français étaient prêts à se faire vacciner. 30% étaient indécis. Très bien, aujourd'hui, une large majorité de Français veut se faire vacciner. Mais très franchement, quand j'écoute un médecin qui contredit ce qu'a dit l'autre, moi le premier, je me pose la question. Moi j'ai envie d'une France conquérante, une France qui se remette debout, une France qui redémarre. Regardez, le monde de la culture est à genoux.
Bon, et donc, effectivement, monsieur le député, une France qui rassure.
Oui,
parce que, mais ça veut dire, c'est déjà ça. Hein,
ça veut dire, cher
monsieur,
parce que
là, pour l'instant, on est inquiet.
J'ai pas honte de le dire. Nous sommes élus. Cette majorité au pouvoir, elle doit prendre des risques. C'est aux politiques de décider. Et moi, je vous dis franchement, je me félicite qu'Emmanuel Macron ait dit à un moment donné, je prends mon risque.
Oui,
et puis, il le paiera ou pas plus tard.
Peut-être qu'il le paiera,
mais,
d'ailleurs.
Mais ce n'est pas le problème.
Ce n'est pas le problème.
C'est pas le problème.
Je suis tout à fait d'accord
d'abord,
avec
vous. D'abord, c'est la France. Mmh. On parle quand même d'une difficulté financière, ouais. d'une jeunesse qui pourrait être en difficulté. Mais j'ai aussi confiance à cette jeunesse qui va se réinventer. Donc, à un moment donné, je n'ai pas honte de le dire, moi, j'aimerais que les médecins, ils nous éclairent, ils donnent un avis éclairé, mais qu'ils ne passent pas leur temps sur les plateaux avec le variant anglais, sud-africain. Je vous dis, franchement, quand j'écoute le monde médical, j'ai envie de me dire, je me cloîtrerai chez moi, mettre du barbelé, mettre des masques partout.
Je ne sais pas si ça suffirait.
Et je ne sais pas si ça suffirait pas.
Mais il y a la responsabilité des médias qui invitent, qui provoquent ces débats contradictoires aussi.
Valérie, c'est un peu le jeu. On est rentré sous cette médiatique. Vous savez, mais malheureusement, c'est l'immédiateté qui paye aujourd'hui, vous voyez bien. On en a parlé tout à l'heure. Donc moi, je voudrais qu'on soit beaucoup d'humilité, être apaisé, consulter encore plus les Français et partager, excusez-moi du mot, nos emmerdes. Oui. Vous avez vu, je ne parlerai jamais de l'opposition. Parce que quand même, ceux qui font le boulot, c'est les élus sur le terrain, c'est les maires. Et après, ceux qui veulent instrumentaliser à des fins politiques, ça reviendra en boumerang. Parce qu'on est très mal en France en ce moment. On a besoin d'esprit de conquête. On a besoin de rassemblement. Et on aura le temps de discuter des élections. C'est pour ça que je me suis engagé en politique.
Les comptes seront réglés le jour venu.
Voilà.
Le jour
on réglera les comptes
mais
venus.
Mais tous âges confondus et toutes sensibilités confondues, il y a quand même une grosse déprime dans les têtes. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, d'abord prendre en compte. C'est dur. C'est dur. Et pour tous âges confondus. Les jeunes, les étudiants et les personnes âgées.
C'est pour ça qu'il faut beaucoup preuve d'humilité.
Stop. On se retrouve dans un tout petit instant. On va parler de cette proposition de François Bayrou de taxer, de taxer les riches. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On revient sur cette petite phrase de François Bayrou qui était interrogé chez nos confrères du grand jury RTL LCI à propos de cette idée de taxer les plus riches pour rembourser la dette, pour compenser l'effort financier. Il a répondu que oui, on pouvait imaginer de le faire. On lui a posé la question de savoir à partir de quel niveau on était riche. Et il a répondu 4000 euros par mois. Pour moi, c'est les classes moyennes. Je ne dis pas que c'est les riches. Et là, évidemment, ça a été un tollé. 4000 euros, effectivement, c'est peut-être pas la même chose selon qu'on habite à Paris ou dans une grande ville ou en province. François Bayrou qui revient sur le devant de la scène, peut-être Nicolas Corato avec vous sur cette phrase de François Bayrou, 4000 euros, c'est la classe moyenne.
D'abord, peut-être, pardonnez-moi une incise, mais j'étais très heureux d'entendre François Bayrou. J'aimerais entendre François Bayrou commissaire au plan, parce qu'on parle beaucoup du monde d'après, on parle beaucoup de planification. Moi, je l'entends parler beaucoup de proportionnel et de hausse des impôts, mais j'espère qu'il n'y a pas que ça dans le plan que prépare M. Bayrou et dont nous aimerions, en tant que citoyens, avoir connaissance, parce que les années qui viennent seront déterminées, j'imagine, par son travail. Et je suis étonné d'entendre François Bayrou sur tous les sujets, sauf ceux qui sont de sa compétence de commissaire au plan. Sur le fond, deux chiffres, le salaire médian en France, c'est 1789 euros, c'est facile à retenir. Voilà. Donc, ça veut dire que la moitié des Français gagne moins de 1789 euros net par mois. Ouais. Le salaire moyen est, lui, à 2200 euros. Donc, vous voyez qu'on est très, très loin des 4000. Après, c'est compliqué de définir une classe moyenne. C'est compliqué de définir des indices de richesse. Il y a énormément de travaux sur le sujet. Ça dépend effectivement de votre cadre de vie. Ça dépend aussi des aides sociales dont vous pouvez bénéficier, du logement, de la manière dont vous vous logez, etc., etc., ou des aides familiales dont vous bénéficiez. Il n'en est pas moins qu'on a toujours un problème en France pour se définir en tant que classe. Ce sujet est un peu tabou. On se souvient que François Hollande avait calé lui aussi à 4000 euros le début de la richesse, avec également le même genre de polémique derrière. Donc, moi, le sujet, c'est pas à partir de quel moment on taxe ou à partir de quel moment on définit une classe moyenne, c'est quelle est la politique fiscale solidaire qu'on met en place dans ce pays, qu'est-ce qu'on fait pour les classes populaires, qu'est-ce qu'on fait pour les 50% de Français qui vivent avec moins de 1789 euros par mois. Ça rejoint d'ailleurs l'intervention de votre auditrice Catherine tout à l'heure, c'est-à-dire quelles sont les politiques publiques qui sont dédiées à ce public-là. Monsieur le député parlait des 9 ou 10 millions de pauvres, puisqu'on en attend 1 million de plus qui vont vivre avec, je rappelle que le seuil de pauvreté, c'est 900 euros. Donc, quand on parle de 1789 euros net, on parle de gens qui gagnent deux fois le seuil de pauvreté. Ce n'est pas des gens qui roulent sur l'or et qui sont pourtant fiscalisés. Donc, il y a un vrai sujet à remettre à plat sur les politiques vis-à-vis de ce que moi j'appelle les classes populaires. Il faut appeler les choses par leur nom. Je rappelle que malheureusement, ce quinquennat a plutôt une politique fiscale très, très favorable aux classes très, très élevées. Hein, la flat tax, la suppression, enfin la transformation de l'ISF en IFI. On attend maintenant, peut-être pour le monde d'après, des signes par rapport à ces personnes qui gagnent, à ces 50% de Français qui sont en dessous du salaire médian.
Oui, Nelly Garnier.
Oui. Oui, bon, moi, je suis un peu fatiguée de aussi ces polémiques qui est que dès qu'un responsable politique parle d'argent, par principe, on crie à la déconnexion et on en fait une polémique. C'est vrai que la classe moyenne, personne ne sait la définir. Et puis, quand on interroge les Français, eux-mêmes, vous regardez, ils sont une très grande majorité à se placer dans la classe moyenne, alors même que leur salaire ne correspond pas forcément aux revenus médians. Et c'est vrai que moi, je suis élue de terrain et vous savez… On dit toujours que les responsables politiques, ils sont déconnectés, mais la réalité, c'est qu'on est quand même confronté à la réalité de plein de Français. Et on voit des personnes dans une très grande détresse sociale. Mais moi, je suis élue parisienne. Et par exemple, je vois à Paris des couples qui, avec 4000 euros par mois, élèvent leurs enfants dans 50 mètres carrés et n'ont pas accès aux aides, n'ont pas accès au logement social et finissent par quitter Paris. Et puis, à force de ne pas se préoccuper de cette classe moyenne qui est peut-être une classe moyenne supérieure, on se retrouve avec des villes comme Paris où vous avez soit les très, très, très aidés qui sont dans du logement social, des niveaux d'allo, soit des très, très riches. Et vous n'avez plus cette mixité avec une classe intermédiaire. Et c'est pour ça que nous, par exemple, sur le logement social, on avait aussi défendu qui est du logement social pour la classe moyenne, mais aussi pour la classe moyenne supérieure, parce qu'on a besoin d'avoir un équilibre social dans nos territoires. Et puis, cette classe moyenne supérieure, je veux aussi en parler, parce que les plus riches, on le voit encore aujourd'hui avec l'histoire de l'open luxe, c'est-à-dire ces très riches qui peuvent faire de l'optimisation fiscale, par exemple au Luxembourg. Ben, les plus riches, souvent, ils arrivent, ils ont les moyens d'échapper à la fiscalité française. Les très pauvres, souvent, ils sont sur d'autres problématiques. On voit bien qu'on va avoir une grande détresse sociale qui arrive. Et donc, finalement, sur les épaules de qui vont reposer tout ce quoi qu'il en coûte qu'on aura eu pendant des mois, ça va être sur la classe moyenne et la classe moyenne supérieure. Et à un moment, quand vous avez une très forte détresse sociale plus une très forte fiscalité qui n'est plus supportable pour une classe moyenne et même une classe moyenne supérieure, vous avez un risque d'explosion sociale. Et c'est quand même ce qui nous attend au sortir de cette crise.
Oui, tout à fait. Oui, Dominique.
François Bayrou vient de démontrer, passons vite, qu'il arrive aux meilleurs esprits de se planter gravement. Il a essayé ensuite d'expliquer qu'il parlait d'un couple. Enfin, je passe. Bon, il aurait mieux fait de se taire.
Ouais.
Il n'en reste pas moins que même s'il est difficile de définir le concept qui peut paraître vague, trop élastique et qui recouvre des situations très différentes comme les classes moyennes à Paris, telles que vient de le décrire fort justement Nelly Garnier, et les classes moyennes dans telle ou telle ville de province, le concept des classes moyennes, aussi vague, aussi large, aussi imprécis soit-il, est un concept politique absolument clé. Parce que c'est de la façon dont ce groupe immense et qui recouvre des situations extrêmement différentes, va réagir politiquement à la situation que nous vivons, situation de crise sanitaire, situation de crise économique, situation de crise psychique. C'est de la façon dont il va réagir que va dépendre le résultat de la prochaine élection présidentielle. Ça, c'est déjà un premier point. Mais au-delà, la façon dont on pourra, dont les gouvernants, quels qu'ils soient, pourront dans l'avenir conduire le pays à l'heure d'une mondialisation chaotique qui passe par une grande restructuration entre les grandes nations. Je passe. Donc, classe moyenne, concept flou, classe moyenne, concept capital. Pendant toute la Ve République, les classes moyennes ont été en ascension. Elles ont joué un rôle absolument clé. Tout le monde s'y reconnaissait et ça se traduisait par une chose concrète. Mon fils ou ma fille aura demain une meilleure situation que moi. Donc, c'était ça la réalité. Aujourd'hui, cette réalité n'existe plus. Ça se traduirait, si je simplifie un peu caricaturalement, j'espère qu'il s'en sortira. J'espère qu'il ne va pas dégringoler dans l'échelle sociale de 2 ou 3.
Il y a des chances.
Oui. C'est pour ça que c'est capital. Classe moyenne, c'est à la fois difficile d'en parler et c'est capital d'en parler.
Pour répondre à l'intervenant, en 2017, Emmanuel Macron a gagné avec cette idée de faire baisser le chômage, relancer l'économie, la confiance aux entreprises. On a eu des résultats, hein, pas dû qu'à cette majorité, hein, déjà avec François Hollande, quand on commence à avoir des résultats sur le chômage. Si vous voulez, on était dans cette idée de start-up entreprise et de résultats. Arrive la crise des gilets jaunes, qu'on n'a pas forcément bien abordée, la réforme des retraites et la Covid. Et je pense que demain, c'est plus un projet humaniste qu'un projet économique. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont perdus. Il n'y a plus d'accession, il n'y a plus d'ascenseur, il n'y a plus d'escalier social. Et donc la réflexion, c'est quel projet humaniste nous allons construire? Et puis, oui, vous avez raison, monsieur, sur la fiscalité. Enfin, quand même, je vais le dire, moi. Pendant cette crise, tout le monde n'est pas perdant, quand même. Ceux qui font des masques, du gel, les centres commerciaux. Écoutez, hier, j'étais, moi, dans une grand commerce de matériaux, mais il y avait une queue sur le parking, pas possible. Ouais. Donc, aussi... Est-ce que la France est solidaire? Est-ce que les Français qui, eux, avec la crise, vont faire des bénéfices, seront capables de le reverser? Et enfin, madame, vous le disiez, Nelly le disait, les paradis fiscaux, alors, suivant la classe politique, c'est 40 milliards, 80 milliards. Il va falloir qu'on soit très, très sévère avec ces riches, qui sont de plus en plus riches, qui ont l'argent de se payer des conseillers financiers et qui même ne payent pas d'impôts. Donc je pense qu'on va essayer de retrouver une justice sociale et fiscale. Mais vraiment, si on veut s'en sortir, toute obédience confondue, c'est de faire un projet humaniste.
On a Fred,
parce qu'on en aura besoin.
On a Fred en ligne avec nous. Bonjour Fred.
Et bonjour tout le monde.
Oui, bonjour. Bonjour.
Merci de me donner la parole. Je vois. Merci de me laisser la parole pour intervenir sur le Bayrou avec sa fusée qui tire en pleine pandémie. Là, on a l'impression qu'il veut attirer des regards sur lui, alors qu'il a strictement rien au niveau politique, si ce n'est en fait pour être mis en place et être enlevé un peu après pour faire les mesures que les dirigeants attendent. C'est tout. Il n'y a aucun intérêt cet homme-là dans notre politique et dans notre système pour le bien du peuple. Parce que nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On trime tous les jours. Tous les jours, on essaie de gagner. Et lui, il arrive, il balance sa bombe. Là. Honnêtement, j'ai envie d'être vulgaire par rapport à des gens comme ça. Parce que c'est des gens comme ça depuis 40 ans qui nous amènent dans la merde dans laquelle on est. Donc, du coup, il faut mettre un grand coup de balai là-dedans. Et Macron ne fera rien du tout. C'est toujours pareil. C'est la même. Aujourd'hui, la défiance, elle est complète. Les gens écoutent de plus en plus la télévision parce que les journalistes ne font pas le travail. Donc, après, ils font pas du travail d'investigation, je veux dire, par rapport à toutes les études qui sont faites par rapport au Covid et tout ça, et cette crise qui nous tombe dessus. Donc, du coup, je dis, moi, c'est cet homme-là, il devrait se taire. Honnêtement, Bayrou, il n'est pas intéressant.
Voilà. Alors, je vais vous lire la dernière phrase d'un article du Parisien. C'est Jean-François Copé, ancien patron de l'UMP, qui a donc l'habitude de travailler avec François Bayrou. Et il déclarait, on finit toujours par payer l'impôt Bayrou. C'est-à-dire que les accords que vous passez avec lui, il finit toujours par vous faire payer l'addition. Deux petites choses. Les musées de Perpignan, vous savez, Louis Alliot qui a décidé de les ouvrir, eh bien, ils resteront ouverts jusqu'au 15 février en attendant la décision. Donc voilà, c'est
on verra s'il y aura du monde.
Pardon ?
On va voir s'il y aura du monde.
Bah oui, on verra effectivement.
Quand on habite à Perpignan, moi, c'est le moment d'y aller.
C'est ma région. Hein. Sur le fond, j'ai envie de dire qu'après tout, si les musées ouvrent, ça donnera un peu d'oxygène. Mais ça veut dire, quand même, je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus, même s'il faut écouter les élus locaux qui ont beaucoup de réponses souvent, et qu'il faut qu'on arrête de tout utiliser de Paris et des bureaux parisiens. Mais quand même, si on va dans la. Je vais demander au maire de Montpellier d'ouvrir mon club de sport. Je vais demander au maire de Lunel d'ouvrir les Halles à ce moment-là. Enfin, je veux dire, on ne peut pas fonctionner.
Ça va être pourquoi lui et pas moi.
Mais oui, on ne peut pas fonctionner comme ça, sinon il n'y a plus d'État.
Il va faire des émules et ça va créer...
Mais pourquoi? Parce que bientôt, il y a des élections régionales et qu'il va marquer des points, il va cranter.
Vous
voilà.
En pensez quoi?
Au moins qu'il assume.
Nelly Garnier.
Moi, je pense qu'on ne peut pas... il faut que les règles, elles soient appliquées nationalement et qu'il faut qu'elles soient les mêmes pour tous. C'est comme... Et on voit bien la détresse de certains secteurs et je pense qu'il faut qu'on soit là pour les accompagner. Mais on ne peut pas se mettre comme des restaurateurs qui ont voulu, coûte que coûte, ouvrir leur restaurant. À un moment, bon, voilà, on est au cœur de la crise. Il faut qu'il y ait ce sens de la responsabilité et de la solidarité nationale.
Oui, et Nicolas?
Bah, le seul vaccin contre la crise politique et sociale qu'on subit aujourd'hui, c'est la République.
Oui.
Donc chacun ses responsabilités et chacun doit appliquer la loi. Une ville, c'est pas un fief.
Donc c'est la loi, rien que la loi.
Très bien dit, cher Nicolas.
Merci, ce sera le mot de la fin. Merci,
merci
à
monsieur
tous
le député.
Les quatre. On se retrouve demain pour d'autres infos. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.